Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibour et Eric Manirakis en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du vendredi 23 septembre 2016. Au sommaire ce soir.
Le Gabon attend dans la peur le verdict de la Cour constitutionnelle sur le contentieux électoral entre Ali Bongo et Jean Ping.
RDC, la délégation de position au dialogue national, a suspendu sa participation suite aux violences meurtrières à Kinshasa.
Nous devons nous mettre d'accord que le principe de l'alternance au pouvoir ne doit pas être remis en cause.
Vital Kamerhe, un leader de l'opposition congolaise.
Le bilan du naufrage d'un bateau de migrants au large de l'Égypte s'est alourdi, plus de 160 morts.
Près de 30 civils tués dans des raids sur les quartiers rebelles d'Alep. Le régime syrien et son allié russe sont pointés du doigt.
Et puis dans 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Suspense au Gabon. Non, excusez-moi, on va démarrer par la République démocratique du Congo, où le dialogue politique, une nouvelle fois, est dans l'impasse. Après le retrait de la Conférence épiscopale nationale du Congo et d'une frange de la société civile, c'est l'opposition qui a décidé de suspendre les travaux. Au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, Vital Kamerhe, le leader des opposants qui participait au dialogue.
Nous avons reporté notre participation aux travaux de la plénière parce que nous estimons qu'à cette phase des travaux, nous sommes arrivés à un moment où certaines options doivent être élevées. Nous devons tous nous mettre d'accord que le temps du dépassement du mandat sera le temps nécessaire pour organiser les élections. Pas pour donner l'impression que nous sommes en train de prolonger le mandat ou donner un nouveau mandat. Deux, nous devons nous mettre d'accord que le principe de l'alternance au pouvoir ne doit pas être remis en cause. Trois, nous devons être sûrs que techniquement et politiquement, la période que nous allons choisir va correspondre aux attentes du peuple congolais. Et nous voulons, nous, régler nos problèmes par la voie pacifique. Et nous voulons dire, donc, il n'y a pas d'alternative au dialogue. Mais le dialogue ne doit pas être un lieu de compromission. Ça doit être un lieu de compromis pour l'intérêt général avant tout. Nous devons avoir un calendrier qui va faire partie intégrante de l'accord que nous allons signer, qui va préciser la date de la convocation du scrutin, la date du scrutin présidentiel combiné avec les autres scrutins et la date de passation des pouvoirs conforme à la Constitution. C'est 10 jours après l'élection. Nous devons avoir l'alternance au pouvoir. Et il est clair que nous ne sommes pas venus ici pour modifier la Constitution. L'actuel président ne sera pas candidat à sa propre succession.
Vital Kamerhe, un des leaders de l'opposition congolaise. De l'autre côté, le Rassemblement, plateforme de l'opposition conduite par Étienne Tshisekedi, qui ne participe pas au dialogue, a déposé plainte ce vendredi au parquet général de la République contre certaines autorités civiles et militaires de la RDC. Il était responsable des tueries des 19 et 20 septembre dernier.
Suspense au Gabon. La Cour constitutionnelle doit rendre son verdict aujourd'hui pour départager le président sortant Ali Bongo et l'opposant Jean Ping. En attendant ce jugement d'aujourd'hui, le pays est sous haute tension. Notre correspondant Libreville a des précisions.
Quel verdict rendra la Cour constitutionnelle dans le contentieux électoral qui oppose le président sortant Ali Bongo et son rival Jean Ping ce vendredi? Trois options s'offrent à la présidente de la Cour, Marie-Madeleine Morantuo: valider l'élection d'Ali Bongo, inverser les résultats ou annuler l'élection présidentielle en un tour du 27 août. Personne ne sait si la décision tant attendue sera rendue ce vendredi 23 septembre. Hier soir, Marie-Madeleine Morantuo a laissé elle-même planer le suspense à l'issue d'une audience publique où les avocats de Bongo et Ping ont procédé à une dernière passe d'armes. Au QG du chef de l'opposition, où je me suis rendu, ses partisans me disaient par exemple que M. Ping a demandé à ses militants de rester chez eux pour éviter, je cite, de nouveaux morts après le verdict de la Cour. À milieu d'après-midi, le centre-ville était désert et les blindés de la garde républicaine avaient bloqué les accès qui mènent à la présidence. Léon Paul Ngoulakia, cousin germain d'Ali Bongo et ancien candidat à la présidentielle avant de se rallier à Jean Ping, a été interpellé et auditionné par la direction générale des recherches rattachée à la présidence. Pour l'heure, personne n'est à mesure d'affirmer s'il a été gardé à vue ou à l'issue de cette audience. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
Au Mali, la MINUSMA a découvert une importante cache d'armes près du lieu des combats entre le Gatia et la CMA, qui ont fait une dizaine de morts la semaine dernière près de Kidal. Une annonce qui intervient 3 jours après une mise en garde de la médiation internationale conduite par l'Algérie, qui a agité la menace de sanctions ciblant les responsables du blocage du processus de paix.
En Côte d'Ivoire, une centaine de Nigériens du Biafra ont manifesté symboliquement aujourd'hui au quartier Biafra d'Abidjan pour demander la libération du leader indépendantiste Nnamdi Kanu, arrêté en octobre 2015.
Verdict dans le procès en appel des 13 Libériens arrêtés en 2012 après des attaques meurtrières dans l'Ouest ivoirien, frontalier du Libéria. 4 des accusés condamnés à perpétuité en juin 2014 pour mercenariat en Côte d'Ivoire ont été acquittés par la Cour suprême du Libéria. La peine des 9 autres accusés a été confirmée.
Mésentente au sein de la majorité au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore est sous pression moins d'un an après son arrivée au pouvoir. Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale et numéro 2 du régime, le critique ouvertement au Parlement, tandis que d'autres membres influents de son parti, le MPP, évoquent la menace d'une éventuelle grogne populaire.
Le Maroc a officiellement demandé aujourd'hui, vendredi, de réintégrer l'Union africaine, organisation que Rabat avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie démocratique qu'elle considère comme une partie de son territoire.
Le bilan du naufrage d'un bateau qui transportait des centaines de migrants au large de l'Égypte s'élève à plus de 160 morts après la découverte de nouveaux corps ce vendredi. Nathalie Barge.
Le ministère de la Santé a annoncé que 53 corps ont été repêchés à la mi-journée. Les survivants affirment que près de 450 personnes se trouvaient à bord du bateau de pêche quand il a chaviré mercredi. Selon l'armée, 163 personnes ont pu être secourues. La majorité des survivants sont de nationalité égyptienne, indique l'OIM. 4 Égyptiens, passeurs présumés, ont été arrêtés sur des soupçons de trafic d'êtres humains et d'homicide involontaire, ont rapporté les autorités. Depuis 2014, plus de 10 000 personnes sont mortes ou portées disparues en tentant de traverser la Méditerranée, selon les Nations Unies.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, nouvelle nuit de manifestation à Charlotte, en Caroline du Nord, après la mort d'un homme noir non armé, abattu lors de son interpellation par la police. La police qui refuse toujours de rendre public l'enregistrement vidéo de l'incident. Nicolas Pinault.
Oui, la famille du défunt Keith Scott a pu visionner hier soir les images venant des caméras que portaient des policiers présents le soir du drame. Cette projection privée a laissé les proches de la victime avec plus de questions que de réponses. Les manifestants qui sont à nouveau descendus dans la rue hier demandent toujours que ces vidéos soient rendues publiques, ce que refuse pour le moment Kerr Putley, le chef de la police de Charlotte-Mecklenburg. Elles seront dévoilées au moment opportun, répond le haut gradé. Même son de cloche de la part du maire de Charlotte, Jennifer Roberts, Lady a instauré un couvre-feu allégé de minuit à 6h du matin et la garde nationale est toujours déployée dans cette ville de Caroline du Nord qui redoute de nouvelles violences ce week-end. À des milliers de kilomètres de là, à Tulsa, dans l'Oklahoma, une policière blanche a été mise en examen pour un homicide involontaire dans une affaire similaire. Elle encourt entre 4 ans de prison et la perpétuité si elle est reconnue coupable.
Nicolas Pinault, de la Caroline du Nord, nous allons à New York où se tient la suite des travaux de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La séance a été marquée ce matin par les discours des présidents Alpha Condé de la Guinée, Mahamadou Issoufou du Niger et Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique. Depuis le siège de l'ONU à New York, le point avec Jacques Aristide.
Intervenant pour la première fois devant cette Assemblée générale en tant que président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a souligné que bien que son pays vienne de renouer avec le processus démocratique, la situation demeure fragile. Beaucoup reste à faire, dit-il, en évoquant les 4 grands piliers qui constituent des priorités de son gouvernement, à savoir la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la réforme de l'administration, la relance économique, la justice et les droits de l'homme.
Également à la tribune ce matin, le président nigérien Mahamadou Issoufou. Sur le plan politique, dit-il, il faut une réforme profonde de l'ONU. La gouvernance des Nations Unies, incarnée par le Conseil de sécurité, nécessite une révision qui a trop tardé, qui aurait ajouté à son efficacité et à sa légitimité dans le traitement des questions essentielles de paix et de sécurité internationale, affirme-t-il. Pour le chef d'État guinéen, le fossé entre les riches et les pauvres continue de se creuser. Le nombre de déplacements massifs de population ne cesse d'augmenter. Les crises et conflits de nature diverses émergent et parfois perdurent. Et la vulnérabilité de notre planète aux effets du changement climatique ne cesse de s'amplifier. Alpha Condé est d'avis que ce constat, si alarmant soit-il, dicte la nécessité d'adopter une approche globale et de lier la parole aux actes. Les travaux de cette assemblée vont se poursuivre jusqu'au lundi 26 septembre, la date de sa clôture. Jacques Aristide à l'ONU pour VOA Afrique.
En Syrie, un véritable déluge de feu s'est abattu aujourd'hui sur les quartiers rebelles d'Alep. Cette ville soumise à des raids d'une violence inouïe du régime syrien et de son allié russe a emporté 27 civils, dont 3 enfants. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Tatiana Mosso.
Sénégal, les travaux de la centrale à charbon de Saint-Dou à Bargny au sud de Dakar seront finalisés en 2017. Telle est du moins l'assurance donnée le 20 septembre dernier par la Société nationale d'électricité Sénélec. Les populations locales se sont toujours opposées au projet pour des raisons environnementales. À terme, la centrale sera dotée d'une puissance de 125 MW, soit le cinquième de la capacité électrique actuelle du pays. Burkina Faso, pour sa première édition, la semaine des activités minières en Afrique de l'Ouest réunit quelques 650 participants venus de 7 pays de la région. Jusqu'au 24 septembre, les débats se focalisent autour des enjeux du développement, des cadres réglementaires et de la répartition des revenus miniers en Afrique de l'Ouest. Cet événement se tient dans un contexte de remontée des cours de l'or qui ont atteint 1 350 $ l'once le 6 septembre dernier. Une bonne nouvelle pour les producteurs ouest-africains qui vantent l'attractivité des réformes en cours. Au Nigeria, une douzaine de compagnies pétrolières étrangères, parmi lesquelles Eni, Chevron et Total, sont accusées d'avoir sous-déclaré leur production. En récession depuis le début du mois, l'État fédéral leur réclame la somme de 12,7 milliards de dollars dans une plainte déposée le 7 juin dernier pour ne pas avoir déclaré l'exportation de 57 millions de barils de brut produits au Nigeria et exportés vers les États-Unis entre 2011 et 2014.
Et nous enchaînons directement par les sports avec Nicolas Pino. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Eric.
Nuage judiciaire au-dessus du footballeur Neymar.
Oui, la justice espagnole a décidé de révoquer en appel le non-lieu rendu au profit de l'attaquant du FC Barcelone et de rouvrir le dossier sur d'éventuels faits de corruption commis entre 2011 et 2014. Le joueur soupçonné avec Barcelone d'avoir caché le montant exact de son transfert en 2011. Neymar avait bénéficié d'un non-lieu d'un juge d'instruction le 8 juillet dernier, mais le parquet avait fait appel de cette décision quelques jours plus tard.
Et maintenant, la liste des Lions de la Teranga pour les prochains matchs internationaux.
Oui, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a convoqué 24 joueurs pour la rencontre des éliminatoires du Mondial 2018. Ce sera le 8 octobre face au Cap-Vert. Moussa Sow, l'attaquant de Fenerbahçe, fait son retour en équipe nationale sénégalaise. L'ancien Lillois, dont la dernière apparition sous le maillot des Lions de la Teranga remontée au mois de mars 2015, a été rappelé dans la tanière. Aliou Cissé a pour le reste reconduit dans les grandes lignes le groupe qui a terminé sur un sans faute les éliminatoires de la CAN 2017, à l'exception notable de l'attaquant de Stoke City, Mambiram Diouf.
Et c'est quoi cette blessure d'un joueur congolais, Nico ?
Le défenseur de Dijon, Arnold Bukamutu, touché à un mollet, sera absent pendant au moins 3 semaines des terrains. Le défenseur international congolais s'est blessé dans les dernières minutes du match perdu 3-0 face au PSG au Parc des Princes. Cette blessure va le priver au minimum des 2 prochains matchs de Dijon. Il va également manquer la rencontre Congo-Égypte. Ce sera le 9 octobre à Brazzaville, une rencontre qualificative pour la Coupe du Monde 2018.
Autre blessure en tennis, celle de Serena Williams.
L'américaine numéro 2 mondiale a annoncé vendredi être obligée de renoncer aux deux prochains tournois qu'elle devait jouer en Chine en raison d'une blessure à une épaule. Serena Williams n'a plus joué en tournoi depuis son élimination en demi-finale de l'US Open, c'était le 8 septembre. Cette défaite lui avait coûté au profit de l'Allemande Angelique Kerber la place de numéro 1 mondiale qu'elle occupait sans discontinuer depuis février 2013.
Merci Nico.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique, Claire Morin-Gibourg et Eric Manilakis en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Eric, à N'Djamena, la police a fait irruption ce matin dans un local de la faculté Ardep Djoumal, tirant des gaz lacrymogènes et des balles réelles, selon des étudiants qui s'étaient réunis pour faire le point sur la contestation de la suppression des bourses d'études. L'Union nationale des étudiants tchadiens a décidé de continuer la protestation, a dit à Nathalie Barge, le secrétaire général de l'UNET, Bertrand Solo-Gandjedj.
Il y a eu 4 arrestations signalées. Il s'agit du coordinateur, le premier responsable de la faculté des sciences de l'éducation, et qui ont été par la suite libérés ce soir. L'intervention elle-même, elle est inattendue parce que nous avions donné ce matin au gouvernement pour le retrait pur et simple de la décision concernant la suppression de la bourse. L'inspiration du délai, c'est aujourd'hui. Donc, il était question qu'on se réunit pour évaluer est-ce qu'il y a eu des progrès dans les discussions avec le gouvernement ou non pour nous permettre de donner des explications aux étudiants. Notre grande surprise, on avait commencé la réunion quand la police a fait irruption dans les locaux de la faculté. Elle a été très violente parce qu'elle a tiré non seulement à balles réelles comme tir de sommation, mais ils ont tiré à bout portant sur des jambes. Heureusement que la balle n'a pas atteint les jambes.
Est-ce que vous avez pu décider de vos prochaines actions à venir?
Nous restons sur notre première déclaration, notre première position. Les conditions d'étude au Tchad ne sont pas réunies pour une quelconque suppression de la bourse. Par conséquent, nous entendons dans les jours à venir, si jamais cette décision n'est pas retirée, organiser des marches nationales, des manifestations populaires partout où il y a des universités au Tchad. Parce que c'est inacceptable. Dans un pays comme le nôtre, il n'y a même pas un seul campus universitaire qui peut abriter des étudiants. Et comprenez comment un étudiant va se retrouver au nord, au fond nord du pays, en train d'étudier, sans campus, sans aucune bourse. Nous n'allons pas accepter, et quel que soit le prix que nous devons payer, nous n'arrêterons pas là.
Est-ce que les cours ont été suspendus à la faculté de N'Djamena?
Depuis même là, on n'a pas repris les cours. On était dans une longue grève suite au non-versement des primes des enseignants de l'enseignement supérieur. Donc, on était en grève. Il n'y a pas de cours au Tchad.
Est-ce que vous avez la possibilité ou vous avez demandé à rencontrer le ministre de l'enseignement supérieur, qui est d'ailleurs professeur?
Ce matin, dans les comptes rendus, le président Lunette a eu un appel du Premier ministre, eh bien, que nous devons le rencontrer le lundi afin de peut-être discuter. Mais ce que nous ne comprenons pas, est-ce que cette discussion va être encore valable? Parce que du moment où on était pacifique, on a donné la chance au dialogue et on vient nous agresser, nous tirer dessus dans les locaux de la faculté du moment où on n'est pas en manifestation. Donc, pour le ministre, nous n'avons pas de débat avec lui. Nous demandons simplement son départ parce qu'il est censé comprendre les situations dans lesquelles les étudiants tchadiens étudient. S'il a fait cette proposition, nous ne pensons pas à discuter avec lui.
Bertrand Solo-Gandjé, secrétaire général de l'Union nationale des étudiants tchadiens, joint à N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Et dans les Grands Lacs, le gouvernement du Burundi a décidé il y a près de 2 mois de fermer ses frontières avec les pays voisins comme le Rwanda. Cependant, les échanges des produits vivriers et autres se déroulent normalement à la frontière entre le Burundi et la RDC. La quantité de marchandises qui traversent reste néanmoins insuffisante. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, s'est rendu à la frontière de Gatumba, Kavimvira. Reportage.
Quand l'on arrive à la frontière entre le Burundi et la RDC à l'ouest du Burundi, de nombreuses voitures d'agences de transport vous accueillent. Des camions lourds viennent et partent vers la RDC avec des marchandises que l'on n'a pas pu apercevoir. Mais de nombreux commerçants burundais et congolais s'affairent au seul bureau des services de la police de l'air et des frontières. Et à côté, ils se rendent dans les bureaux de l'office burundais des recettes pour payer les taxes. Cette femme congolaise de 36 ans vient régulièrement à ce bureau et nous parle de produits qu'elle amène de la RDC.
Nous apportons des marchandises depuis la RDC. Nous amenons des sauces tomates, des petits poissons anis, de l'huile et des produits de beauté. Nous dédouanons ici. On nous donne des quittances de l'Office burundais des recettes. Et de Bujumbura, nous revenons avec des savons, de la nourriture, mais aussi des oignons, des tomates, du pili-pili.
À côté de cette femme habillée à la mode congolaise, un jeune Burundais avec sa grosse bicyclette transportant des sacs de chou-fleurs se rend trois fois par semaine au Congo voisin pour faire son petit commerce qui fait vivre sa petite famille de trois personnes.
J'achète deux sacs de chou au marché, je paye ici des taxes avant de me rendre au Congo voisin. Après, vente à Uvira, je parviens à gagner 5 000 ou 6 000 francs burundais. Ce qui est important, c'est de ne pas rester à la maison sans occupation.
Un autre jeune homme de 26 ans, à 16 ans, très et sorti à cette frontière burundo-congolaise, il affirme que malgré la décision du gouvernement burundais de ne pas exporter des produits vers les pays de la région, des produits burundais partent bel et bien vers la RDC voisine.
Qu'on ne vous trompe pas que des produits ouvriers et autres n'entrent pas en RDC. C'est une réalité, mais le problème, on paie beaucoup de taxes pour ces produits. Des petits commerces à vélo avec des bières locales, des aubergines, des tomates en petite quantité passent normalement. Ce ne sont pas des camions pleins. Peut-on arrêter quelqu'un qui vend des bananes à 10 000 francs burundais ?
À la frontière de Gatumba, dans la commune de Mutimbuzi, province de Bujumbura Rural, de nombreuses agences pour le transport de ces produits vers la RDC en provenance du Burundi sont visibles, mais les échanges entre les deux pays se font normalement, malgré la décision du gouvernement burundais de ne plus exporter les produits vivriers vers les pays de la région. Pour le bonheur des citoyens burundais et congolais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Et nous revenons à New York pour l'Assemblée annuelle des Nations Unies qui reçoit traditionnellement beaucoup de chefs d'État venus du monde entier. Chefs d'État qui s'adressent à la tribune de l'Assemblée générale. En face du Palais de Verre, chaque année, une place symbolique reçoit les manifestants venus du monde entier pour se faire entendre. Le point avec notre envoyé spécial à New York, Timothée Donangmaï.
Dag Amaskil Plaza, du nom du deuxième secrétaire général de l'ONU, mort dans un accident d'avion en septembre 1961, est un petit jardin public en face du siège de l'ONU à Manhattan. C'est aussi la tribune où de nombreux manifestants venus du monde entier tentent de se faire entendre. Mamadou Keïta, président du Conseil des Maliens et des États-Unis, et ses compatriotes sont là pour dénoncer le retard dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé il y a un peu plus d'un an dans leur pays.
Peut-être le retard c'est dû aux Nations Unies ou bien les mouvements rebelles qui ne sont pas de bonne volonté, ou bien ça peut être la faute du gouvernement malien, nous on ne sait pas.
Juste à côté, un groupe de Togolais de la diaspora s'apprête à quitter les lieux après avoir crié toute sa colère contre le président Faure Gnassingbé, Classico Koutouglo, administrateur de système de santé et porte-parole du mouvement Mobilisons-nous.
Nous voudrons dire à l'opinion internationale, l'Union africaine, le gouvernement américain, l'OU à la CDAO, de dire à force de limiter le mandat dans les mois à venir. Mais s'il ne le fait pas, nous allons chercher les moyens lourds pour le faire partir.
Inoussa Kanu et un groupe de militants du All People's Congress, le parti au pouvoir en Sierra Leone, sont venus exprimer leur gratitude au président Ernest Bai Koroma. Eh bien, depuis qu'il a pris la tête du pays, il a stabilisé l'économie. Oui, nous avons connu la crise de l'Ebola et du reste, tout pays traverse des crises. Donc, le président s'en tire bien. Une fontaine gazouille. Au loin, un carillon égrène ses notes mélancoliques. C'est la fin de la journée au Dag Amaskil Plaza. Dans un coin, une statue flambant neuf de Sainte Mère Teresa de Calcutta veille sur tous les manifestants sans distinction de langue, de race, de conviction religieuse ou politique. Timothée Donangmaï, VOA Afrique, New York.
Voilà votre rendez-vous quotidien de sur la course à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, notre chronique est dominée par le premier duel télévisé entre les deux candidats. C'est signé Salwa Jafari. Bonsoir Salwa.
Bonjour Eric, bonjour Claire. Aujourd'hui, on va parler de la tradition des débats présidentiels. Alors, le premier débat qui opposera Hillary Clinton et Donald Trump va se tenir lundi prochain. Pour l'instant, aucun des deux candidats à la Maison-Blanche ne part favori. Ils sont à couteau tiré depuis un an, s'accusant de tous les maux, mais ne se sont jamais retrouvés en face à face. Eh bien, on va enfin pouvoir assister à un match sans merci, en tout cas, on l'espère, parce que l'enjeu est de taille. C'est vrai que beaucoup d'électeurs ont déjà fait leur choix, mais les débats peuvent toutefois avoir un impact sur les indécis qui décideront du successeur de Barack Obama. Et cette année, ils sont plus nombreux qu'il y a 4 ans. 9% des électeurs selon un sondage NBC. Pour comprendre un peu l'importance de ce débat, je vous propose tout d'abord d'écouter Jeremy Meyer de l'université George Mason University et Stephen Wayne, il est de Georgetown University.
Le débat établit la stature. Ça vous permet de vous tenir sur le même pied d'égalité avec quelqu'un de très connu.
Les débats présidentiels sont importants lorsque les candidats sont très proches dans les sondages. La plupart des gens qui suivent les débats espèrent que leur candidat favori fasse une bonne performance.
Alors voilà, vous entendez la voix de Nixon et c'était lors du premier débat télévisé dans l'histoire américaine qui s'est tenu en 1960 et qu'il a opposé à John Kennedy du Massachusetts. La brillante performance de Kennedy a grandement contribué à l'issue des élections. Le gagnant était Claire ?
Kennedy, bien sûr.
Voilà. Donc,
there is no Soviet domination of Eastern Europe.
Governor Reagan again. Typically,
alors là, c'était en 1976, le président Gerald Ford s'est tiré une balle dans le pied, si je puis me permettre l'expression, en répondant à une question sur l'influence de l'Union soviétique en Europe de l'Est. Résultat, Jimmy Carter l'a remporté. Ce qu'il a dit exactement, c'était que l'Union soviétique ne domine pas l'Europe de l'Est, ce qui est totalement faux, bien sûr. Jimmy Carter, bien évidemment, ne s'est pas gêné. Il s'est jeté sur l'occasion pour le ridiculiser. Ford a perdu l'élection cette année. On termine avec Donald Reagan. La question qu'il a lancée à ses électeurs en fin de débat est devenu un classique.
Next Tuesday, all of you will go to the polls. You'll stand there in the polling place and make a decision. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself.
Quand vous prenez cette décision, vous devez vous demander, êtes-vous dans une meilleure posture qu'il y a 4 ans ? Alors je crois que beaucoup d'électeurs américains se posent la même question. Qui est à même d'améliorer ma vie, mon pays, l'image de mon pays ? Clinton ou Trump ? Les deux candidats auront l'occasion de convaincre pendant les débats, il y en aura 3. Clinton est souvent perçu comme trop cérébral, Trump trop viscéral, impulsif. Le débat risque en tout cas d'être explosif.
Merci Salwa pour les détails. Rendez-vous c'est lundi prochain pour ce premier débat.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Cette édition, Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Nick Ivanov à la console. Présentation, Claire Morin-Gibourg et Eric Maniakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de rester branché sur VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. Plus d'1 750 000 on maintient la conversation. Visitez notre site internet.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.